Bonjour Monseigneur Jean-Marc Mika.
Bonjour Anne-Rose.
Merci d'être au micro de Radio Présence aujourd'hui pour répondre à une interview exclusive et tout à fait particulière. Le 27 mars 2023, vous avez, en tant qu'évêque de Tarbes et Lourdes et avec Père Michel Daubanne, qui est le recteur du sanctuaire de Lourdes, saisi le conseil d'orientation du sanctuaire à propos du statut et de l'avenir des mosaïques recouvrant sur 160 mètres carrés toute la façade de la basilique du Rosaire. Ces mosaïques sont l'œuvre du prêtre jésuite Marco Rupnik, reconnu mondialement pour son travail de mosaïste. Elles ont été installées en 2008 pour le 150e anniversaire des apparitions et elles illustrent les mystères lumineux du Rosaire. Marco Rupnik a été depuis sanctionné, c'était en 2020, par le Saint-Siège pour avoir commis des abus et des agressions sexuelles et spirituelles sur des dizaines de femmes, dont des religieuses. Monseigneur Mika, plus de 200 lieux catholiques, y compris Rome, sont ornés des mosaïques de l'artiste slovène. Alors pourquoi le monde a tourné ses yeux vers Lourdes lorsque cette affaire a été dévoilée? Pourquoi avons-nous le sentiment que les mosaïques de Rupnik à Lourdes, ce n'est pas les mêmes choses que les mosaïques de Rupnik à Genève, à Rome, à Washington, à Fatima ou ailleurs?
Je pense en raison de ce que représente Lourdes et de ce que j'ai appris à découvrir ces derniers mois, à savoir que beaucoup de personnes victimes d'abus, et sans en faire de publicité ni le dire à quiconque, viennent à Lourdes depuis de très nombreuses années, victimes d'abus de toutes sortes, hein, viennent à Lourdes depuis de très nombreuses années pour y chercher, auprès de l'Immaculée Conception, consolation, et éventuellement réparation intérieure de ce qu'elles ont subi. Et sans doute que c'est cela qui joue beaucoup dans l'intérêt que suscite la présence des mosaïques de Rupnik à Lourdes dans le monde entier. Et c'est un lieu public, éminemment public. C'est pas une chapelle privée, c'est pas... Alors, elles sont dans d'autres lieux publics ailleurs dans le monde, mais évidemment qui n'ont peut-être pas la renommée de Lourdes. Et en tout cas, la mission de Lourdes d'accueillir des personnes qui viennent y chercher tout particulièrement des consolations.
En mars 2023, lorsque vous avez donc saisi le conseil d'orientation du sanctuaire, vous avez aussi annoncé la création d'une commission dédiée à l'avenir des mosaïques, de ces mosaïques. Pourquoi ? Quelle mission vous avez confiée à cette commission à ce moment-là ?
Avec le père Daubanne, on a beaucoup travaillé, donc le recteur du sanctuaire, pour déterminer la composition de la commission en question. On voulait que soient entendus divers points de vue, ou divers avis, diverses opinions, puisque déjà nous avions reçu des interpellations fortes de la part de personnes victimes et d'autres qui s'indignent et s'indignaient qu'elles soient toujours en place, et de la part d'autres qui s'indignent et s'indignaient à l'idée qu'on puisse imaginer y toucher d'une quelconque manière. Bon. Et donc, on s'est dit, il faut que ces différentes voix soient présentes dans la commission. Le but de la commission, n'est donc pas d'arriver à une décision consensuelle qu'ensuite je n'aurai plus qu'à annoncer et puis faire exécuter, mais que d'entendre les uns les autres. Au-delà de « j'aime pas, c'est scandaleux d'imaginer ceci ou d'imaginer cela », d'entendre, et c'est la mission que je leur ai confiée à l'ouverture de nos sessions de travail, d'argumenter les positions qu'ils portaient, les uns ou les autres, et de me fournir par là, donc, moi-même, des éléments pour ma propre réflexion et argumenter une décision. Donc c'était ça la commande dès le départ. Pour rappel, dans la commission, il y a des personnes victimes, une personne victime, une personne représentante de victimes, une personne responsable au niveau de la cellule de la Conférence des évêques de France de la lutte contre les abus, des personnes au niveau de la Conférence des évêques de France responsables de la liturgie et de l'art sacré, deux juristes, un avocat spécialisé en particulier dans les questions de droit d'auteur, de propriété d'œuvres, de quelque nature qu'elle soit, un chapelain, un délégué religieux dominicain par la Conférence des religieux religieuses de France, moi-même, donc le père Daubanne, voilà. Cette commission, son animation a été confiée à une magistrate, tout à fait engagée, mais en même temps très professionnelle dans l'animation, donnant la parole aux uns et aux autres. Donc on a passé une première rencontre à nous présenter longuement les uns les autres et à présenter notre lien avec la question, l'intérêt de chacun avec la problématique, avec le sujet, et comment chacun entrait dans le travail de cette commission. Chacun a prêté serment de confidentialité. d'écoute, de s'écouter les uns les autres, vraiment. On savait à l'avance qu'il y aurait de l'émotion, beaucoup, dans les expressions des uns ou des autres. Et donc, j'ai exposé l'attente, mon attente par rapport à cette commission, non pas une décision qui serait consensuelle, mais que chacun puisse fournir des arguments qui ensuite m'aideraient dans mes propres choix.
Vous attendiez des avis des uns et des autres, que ça vous aide à discerner pour répondre à la question, faut-il ou pas retirer ces mosaïques de la façade de la basilique du Rosaire ?
Oui, à discerner et à argumenter. Vraiment, chacun est entré avec un niveau d'expertise très impressionnant. Et franchement, mission accomplie pour ce qui est du travail de cette commission, qui a joué complètement le rôle que j'attendais qu'elle joue à ce moment-là.
Donc il y a eu des débats entre eux, et ce sont ces débats précisément qui vous ont aidé, vous aussi peut-être, à évoluer, à changer de regard. Vous nous direz si votre décision ou votre pressenti avant était le même qu'après les travaux de la commission.
Des débats, mais d'un, je dirais vraiment, et ce n'est pas péjoratif, mais d'un très bon niveau, parce que par ailleurs, dans le même temps, le père Dauban et moi recevions quantité de courriers. Hein, on a reçu beaucoup de contributions, de courriers, de réflexions et de qualités très inégales.
Combien est-ce qu'on peut avoir une estimation ? Ce sont des dizaines, des centaines ?
Des centaines, et certains de ces courriers portaient des milliers de signatures. Voilà. Donc c'est vraiment plusieurs milliers de personnes qui se sont exprimées de diverses manières. Outre les membres de la commission, parmi ces personnes, certaines ont été entendues par la commission, ont travaillé en visio, donc ceux de Lourdes, nous étions ensemble dans une même salle de réunion, et les autres participaient en visio, et c'est sous ce mode qu'on a pu interroger des gens en France et à l'étranger.
Combien de personnes avez-vous interrogé au sein de cette commission ?
Alors, outre la commission, on a interrogé à peu près une dizaine de personnes.
Qui étaient elles-mêmes des victimes ou des personnes pouvant s'exprimer sur ces sujets-là ?
Vraiment, toutes sortes de personnes. Alors, des victimes, soit des victimes de Marco Rupnik lui-même, soit des personnes victimes d'abus en général. On a reçu, le père Dauban et moi, des personnes du Centre Aleti d'artistes qui travaillent avec le père Rupnik. On a reçu Monseigneur Perrier, qui est celui qui avait passé cette commande pour le 150e anniversaire des apparitions. Voilà, toutes sortes de personnes qui sont intervenues. J'ai reçu des dossiers extrêmement élaborés de gens qui sont très très spécialisés dans les questions d'art sacré, des dossiers extrêmement travaillés, fouillés, documentés, d'associations ou de personnes en lien avec des victimes dans le monde. J'ai reçu des courriers ou des rendez-vous avec des cardinaux ici à Lourdes de passage à l'occasion de pèlerinage ou provoqués à leur demande ou à la nôtre, des courriers d'évêques dans le monde qui se faisaient l'écho de sensibilités de personnes de leur diocèse. Enfin, vraiment, c'est plusieurs milliers de contributions que nous avons reçues. Nous avons toutes lues, écoutées. Au début, je mettais un point d'honneur à répondre à chacun, puis très vite, c'est devenu totalement impossible. Et voilà, j'espère que toutes ces personnes nous pardonneront de ne pas avoir répondu personnellement à chacun. Mais vu le volume de courriers reçus, c'est devenu totalement impossible.
Dans tous ces courriers, quelle proportion favorable au retrait des mosaïques et quelle proportion pour que vraiment elles restent ces mosaïques ? Est-ce que ça, vous avez pu le mesurer, sentir une tendance ?
Oui, tout à fait. Alors, en volume d'interventions reçues, je dirais qu'il y a eu plus de demandes pour le retrait des mosaïques que pour leur maintien. Si on compte les signatures, bon, si on compte le nombre de courriers, mails, appels téléphoniques ou rendez-vous, je dirais que c'est très très partagé, c'est très équilibré, si on peut parler comme ça. Ce qui m'impressionne beaucoup, c'est parfois la violence de certaines interventions, qu'elles aillent dans un sens ou dans l'autre, mais qui dit la gravité du sujet et l'émotion immense qu'il provoque. De part et d'autre.
Vous venez d'annoncer, Mgr Mika, votre décision, celle que tout le monde attend depuis des mois. Donc, à la question que tout le monde se pose, retirerez-vous ces mosaïques ou pas ? Vous répondez, expliquez qu'il vaudrait mieux les retirer, c'est votre souhait, dites-vous, mais que cette option ne rassemble pas assez pour s'y engager. Alors là, on a besoin d'explications, Monseigneur. Les mosaïques restent-elles en place? Restent-elles pour toujours? Restent-elles pour l'instant? Est-ce que vous pouvez nous expliquer quelle est vraiment votre décision au sujet de ces mosaïques?
Vous avez posé tout à l'heure la question de savoir si ma conviction présentée ici est celle que j'avais au moment où tout a commencé, pour ce qui me concerne, dans cette réflexion. Très vite, il m'a semblé que ce serait sans doute plus sage. Très vite aussi, et à travers les courriers reçus, et à travers les échanges au sein de la commission, j'ai compris que la question serait immensément complexe, d'un point de vue juridique, d'un point de vue pastoral. Très vite, j'ai douté de ma propre position, et je peux dire que jusqu'à récemment, très récemment, j'étais vraiment partagé, ne sachant pas quelle serait la bonne décision à prendre. Si on la formule seulement de manière, on les laisse, on les enlève. Ma conviction profonde, désormais établie, et je pense que je ne changerai pas d'avis à ce sujet, est qu'il vaudrait mieux les enlever. Il vaudrait mieux les enlever. Voilà, je le crois. Mon propos, ce n'est pas de partir de l'œuvre elle-même, comme je l'exprime, parce que c'est un argument qui est venu et qui est vraiment extrêmement important de distinguer la moralité de l'œuvre, entre guillemets, si on peut parler de moralité d'une œuvre, de celle de son auteur. Et l'argument qui a été avancé par beaucoup, jusqu'à plus soif et satiété pour moi, et c'est de dire, mais alors il faudrait aussi, si on enlève, détruit, efface toutes les œuvres de tous les auteurs qui ont eu des comportements répréhensibles, eh bien c'est les autodafés, c'est la culture de l'effacement et de la destruction, et on vise quelque chose d'une pureté imaginaire absolue, et c'est la dictature, etc., etc. Donc la question vraiment est importante, extrêmement importante, et mérite considération. Moi, mon propos, c'est pas de partir de l'œuvre et de son statut, c'est pas non plus de partir de l'auteur, parce qu'il y a eu beaucoup d'arguments aussi pour dire que toute personne est marquée par le mal, par le péché, etc. Et certains sont même allés jusqu'à dire qu'il fallait faire miséricorde. Mais mon propos n'est pas de partir ni de l'œuvre et de son statut, ni de l'auteur de l'œuvre et de son statut, ni même de la question de son salut. Ce n'est pas mon propos. Mon propos à moi, c'est que la présence de cette œuvre est source d'empêchement pour nombre de victimes, d'abus, pas seulement de ses victimes à lui, mais de personnes victimes d'abus en général, qui venaient à Lourdes pour chercher auprès de l'Immaculée Conception consolation et réparation, et qui aujourd'hui ne peuvent plus le faire. Et ça, le gardien de la grotte que je suis ne peut pas se satisfaire de cette situation.
Pardon, mais puisque votre conviction profonde, votre opinion personnelle, et vous le dites et vous l'écrivez, qu'on ne peut pas les laisser, ces mosaïques, pourquoi ne les enlevez-vous pas? Vous comprenez que cette annonce que vous faites aujourd'hui, elle va décevoir en particulier les victimes d'abus, elle va être difficilement audible, compréhensible. Est-ce qu'on doit comprendre qu'à Lourdes, le gardien de la grotte que vous êtes ne fait pas ce qu'il veut?
Avant aujourd'hui, j'étais convaincu que quelle que soit la décision que je prendrais, je décevrai la moitié des personnes qui sont intervenues dans le dossier d'une manière ou d'une autre. Aujourd'hui, j'ai conscience que je prends le risque de les insatisfaire toutes, de les blesser et de susciter de la compréhension des deux côtés. D'un côté, en disant que ma conviction est qu'il faudrait les enlever, et de l'autre côté, parce que pour l'instant, je ne les enlève pas. Voilà. Alors, évidemment, c'était extrêmement, vous n'imaginez pas la complexité intérieure et même spirituelle pour moi de formuler les choses comme je les formule. Il n'y a pas de pression particulière pour que cette décision ne m'ait imposée par personne. C'est vraiment le fruit de la réflexion, de la prière, des échanges des uns, des autres, etc. Et le constat que... mettre en œuvre ma conviction aujourd'hui aurait comme effet immédiat de créer une division absolument incroyable. Et je ne suis pas là pour diviser. Diviser davantage. À mon avis, vraiment, je fais une lecture spirituelle, alors je me risque à ça, et je sais qu'en disant cela, je m'expose à de l'incompréhension, des critiques ou des ricanements, que sais-je. Mais j'ai vraiment la conviction, quand je suis arrivé à Lourdes, on m'a dit, vous savez, Monseigneur, soyez prêt, là où il y a la Vierge, il y a aussi le diable. Et je suis vraiment convaincu qu'au plan spirituel, toute cette affaire est marquée par cette réalité spirituelle, d'un combat spirituel entre Dieu et son ennemi de toujours, qui est le diviseur. Si ma décision est source de division, alors je fais l'œuvre précisément de l'ennemi de Dieu. Et je ne veux pas faire cela.
Vous n'avez pas reçu d'injonction de telle ou telle personne du monde de la culture, de l'Église de France, du pape François que vous avez rencontré récemment à Rome, vous empêchant de faire ce que vous croyez être juste?
Vous savez, j'ai fait plusieurs choix dans ma vie et un des choix que j'ai fait, vraiment très important en conscience, c'est de ne pas mentir. De ne pas me mentir et de ne pas mentir aux gens. Bon. La décision que je prends, je l'assume à 200%. Elle est ma décision. Elle est la décision qui a été travaillée. On a travaillé avec le recteur et d'autres collaborateurs à la rédaction du communiqué qui exprime à 100% là où j'en suis aujourd'hui. Donc, des pressions, il y en a eu des milliers et des milliers.
De qui exactement ?
De la part de toutes parts, de la part de personnes victimes, de la part des médias qui sont très impatients, qui pensaient que je ferais une déclaration, annoncerais une décision au moment de l'Assemblée des évêques au printemps dernier, et de la part d'associations qui défendent telle ou telle attitude, l'importance de distinguer l'auteur de son œuvre, ou des personnes victimes qui disent que c'est insupportable et qu'une fois de plus, si on les laisse, eh bien, l'Église fait le choix de ne pas écouter les victimes, de ne pas entendre leurs souffrances, de préférer un objet à une personne, etc., etc. Donc des pressions, il y en a eu des tas, y compris de la part de personnes au Saint-Siège, mais on sait bien qu'au Vatican même, les avis sont très, très partagés, très contrastés.
Mais vous vous êtes senti libre de prendre votre décision, vous, Monseigneur Mika, en tant qu'évêque de Tarbes-et-Lourdes et gardien de la grotte?
Franchement, la décision que j'annonce là est ma décision.
Dans votre décision, vous annoncez aussi la mise dans l'ombre des mosaïques lors des processions mariales du soir. Alors, vous ne l'écrivez pas comme ça dans votre communiqué, mais en fait, ce qu'on peut dire, c'est que actuellement, les mosaïques qui ornent donc la façade de la basilique du Rosaire sont illuminées chaque soir, au moment notamment où se termine la procession mariale et que tous les pèlerins sont devant cette basilique du Rosaire. Eh bien, on peut voir ces mosaïques de Rupnik qui représentent donc, je le rappelle, les mystères lumineux. Les mosaïques seront désormais moins illuminées, mises dans l'ombre. Comment ça va se passer concrètement? Vous pouvez nous expliquer?
Avant que les mosaïques ne soient installées sur la façade de la basilique Notre-Dame du Rosaire, eh bien, la façade de la basilique, elle était de la même couleur que tout le reste des églises et de l'ensemble construit, basilique du Rosaire, basilique de l'Immaculée Conception, les rampes, etc., en rose pierre grise des Pyrénées. Et lorsqu'elles ont été installées, j'étais très, très heureux de l'apport de couleurs sur la façade de cette basilique. Et quand j'ai été nommé en 2022, j'admirais, grâce au jeu de lumière qui était leur mise en scène, si j'ose dire, à la fin de la procession mariale le soir, parce que la couleur, parce que la lumière, parce que le climat que cela crée. Depuis l'annonce ou l'information concernant son auteur, concernant surtout l'effet que la présence de ces mosaïques produit sur les personnes victimes qui ne peuvent plus venir à Lourdes parce que les bras de l'Immaculée Conception, la basilique supérieure et les deux rampes qui sont comme les bras de la Vierge Immaculée et qui aujourd'hui par ces personnes sont devenus les bras d'un abuseur qui les insère sur l'esplanade de la basilique du Rosaire.
C'est ce que les victimes vous ont dit, vous ont écrit?
Oui, et avec une émotion qui fait que là où elles sont, malheureusement, c'est comme ça, là où elles sont placées, ces mosaïques, en plus, Outre leur existence, il peut y avoir une appréciation artistique diverse sur l'œuvre d'art elle-même. Bon, peu importe, c'est pas ça le sujet. Mais elles sont devenues, pour quantité de personnes victimes, le symbole de l'auteur d'abus qui, dans les bras, les insère. Ça réveille ce traumatisme-là d'être pris dans les bras d'un abuseur. L'effet produit, c'est que désormais, là où elles sont, ces mosaïques empêchent les pèlerins victimes de venir à Lourdes. Mon problème, ce n'est pas ceux qui sont là et pour qui ce n'est pas un problème. Mon problème, c'est ceux qui ne sont pas là et pour qui c'est un problème.
C'est peut-être une minorité, mais c'est la minorité qui souffre.
C'est une minorité pour qui Lourdes est faite. Lourdes est faite pour les personnes petites, pauvres, blessées, abîmées. Et le message de Lourdes, c'est « Venez, et là, la miséricorde de Dieu vous reconstruira. » Aujourd'hui, ça ne marche pas pour ces personnes-là. Et donc ça, pour moi, c'est un scandale absolu, un scandale spirituel, et c'est gravissime, quoi. Et c'est à ce niveau-là que je me sens interpellé. Et donc, il faut continuer de travailler, et je veux le faire avec des personnes victimes pour trouver la bonne manière d'avancer, parce qu'avec les experts de toutes sortes, c'est fait, on ne va pas recommencer, mais de travailler délibérément avec des personnes victimes, parmi lesquels il n'y a pas non plus unanimité sur ce qu'il convient de décider. Et voilà, moi, mon propos, c'est de faire en sorte que Lourdes redevienne, et redevienne tout de suite et très vite, un lieu, un sanctuaire, le sanctuaire qui accueille des personnes blessées, abîmées, et qui viennent ici pour se reconstruire. Et donc, puisque la présence de ces mosaïques, de leurs couleurs, des personnages, tout ce qu'on veut, avait été soulignée dans une forme de mise en scène lumineuse le soir avec les bougies de la procession, etc. Eh bien, à minima, j'ai pris la décision, j'ai demandé à ce que cette mise en scène soit arrêtée. C'est-à-dire que, elles sont là, on ne va pas les détruire, on ne va pas les enlever là sans davantage d'adhésion, mais au moins on arrête de s'en servir pour illustrer ceci ou cela.
Votre choix va en soulager certains, en peiner d'autres, peut-être même susciter de la colère, de l'incompréhension. Peut-être que des personnes vous diront « oui, vous les mettez dans l'ombre et c'est tout ». Comment vous allez suivre et accompagner ces personnes-là, celles, encore une fois, qui souffrent et qui vont peut-être avoir un sentiment qu'on rajoute de la peine ou de la déception à leur douleur?
Je comprends, pour avoir écouté, rencontré beaucoup, beaucoup, beaucoup de personnes et échangé à ce sujet, que de toute façon, je sais, hélas, enfin je sais, c'est comme ça, c'est légitime, que malgré toutes les explications que je pourrais donner, je ne pourrais pas convaincre unanimement les gens que c'est la bonne façon de faire. Et j'assume cela très, très humblement, et je demande pardon vraiment de la blessure que certains et nombreux sans doute vont éprouver une fois encore dans leur souffrance, dans leur traumatisme. Je veux leur dire que mon cœur pleure avec eux et voilà. Mais ma responsabilité, ma mission, c'est de penser à tous, de servir aussi l'unité de l'Église, de ne pas la déchirer davantage qu'elle ne l'est. Et donc c'est l'appréciation de cela qui fait qu'aujourd'hui c'est cette décision qui est prise, mais je veux continuer d'avancer pour entraîner de la réflexion, de l'argumentation, éventuellement de l'adhésion. Les mettre dans l'ombre aujourd'hui, c'est un premier pas, comme je l'ai écrit, c'est un premier pas qui en appelle d'autres, et les autres pas, je veux les faire avec les personnes victimes, et donc dès la rentrée, parmi les nombreuses personnes avec qui nous sommes en relation, on constituera une nouvelle équipe pour continuer de travailler le sujet et avancer délibérément.
Alors, vous nous avez expliqué donc votre avis personnel et votre décision. Vous nous avez rappelé, et vous l'écrivez dans votre communiqué, je vous cite, « À Lourdes, les personnes éprouvées et blessées qui ont besoin de consolation et de réparation doivent garder la première place. C'est la grâce propre de ce sanctuaire. Rien ne doit les empêcher de répondre au message de Notre-Dame, invitant à y venir en pèlerinage. » Mais Lourdes, c'est aussi un lieu de pardon et de miséricorde. Vous parliez de miséricorde tout à l'heure, Monseigneur Mika. Parmi toutes les personnes qui attendaient votre réponse, votre décision, il y a de très nombreux chrétiens, catholiques. Certains penchent naturellement vers un sentiment de compassion, de sollicitude à l'égard de toutes les victimes d'abus, de toute forme d'abus. Et d'autres, peut-être, souhaitent s'épancher avec miséricorde sur cet artiste, Marco Rupnik. Dans les deux cas, souffrir avec les victimes ou aimer une personne malgré les crimes qu'elle a commis. Dans les deux cas, on peut se référer à l'Évangile. Est-ce que les deux options ne sont pas des réponses chrétiennes ?
Si, si. Et il est important que Marco Rupnik, là où il est, s'il est dans une attitude de reconnaissance du mal qu'il a fait et de conversion et de recherche de la miséricorde de Dieu, la miséricorde, elle suppose aussi la réparation, hein. Et donc, je me tiens complètement à sa disposition pour pouvoir éventuellement réfléchir aussi avec lui à quelle forme de réparation il envisage à l'égard des personnes qu'il a blessées par sa vie, par son péché, par ses attitudes, par les crimes qu'il a perpétrés. Donc, c'est possible. Dans le cœur de Dieu, tout est possible. Mais ça exige une démarche de sa part, puisqu'il est encore vivant, à la différence de bien des artistes dont on parle pour dire « mais alors, s'il fallait détruire ou cacher l'œuvre de tous ceux qui ont mal fait, bon. » Lui, il est vivant, donc il peut encore faire cette démarche-là. Et il doit à ce moment-là le manifester et assumer une conversion et une démarche à la miséricorde de Dieu, et donc assumer aussi une forme de réparation à l'égard des victimes, et les entendre et consentir, convenir avec nous, que la présence de son œuvre ici, et peut-être ailleurs aussi, j'en sais rien, mais en tout cas ici, est un empêchement pour les victimes et pour Lourdes. Donc, je suis tout à fait ouvert à ce qu'il fasse cette démarche.
C'est un appel là que vous lui lancez. Vous seriez prêt, par exemple, à le recevoir ici à Lourdes pour en discuter avec lui et pour l'aider à avancer sur cette voie-là ?
Sans aucun doute, s'il est dans cette disposition, je suis tout à fait disposé à en parler avec lui, et à le recevoir et à l'écouter. Voilà. Mais il doit y avoir réparation. La miséricorde, c'est pas simplement on efface l'ardoise et puis on fait comme si de rien n'était. Le mal commis, il reste, les traces qu'il a engendrées. Et donc, il y a des formes de réparation à trouver, à inventer. On a, après le rapport de la CIAZ et tout le travail qui a été fait dans la conférence des évêques de France, bien identifié tout cela. Et l'Église s'est vraiment engagée dans cette démarche de réparation aussi, à l'égard des personnes victimes. Et si les auteurs peuvent participer à cette démarche de réparation, ils doivent le faire. Et tant mieux, et c'est possible, il n'y a pas d'ostracisation particulière. Mais la miséricorde, c'est pas on efface l'ardoise et on fait comme si de rien n'était. C'est pas ça, la miséricorde.
Monseigneur Mika, ma dernière question est un peu plus personnelle, plus intime. Comment vous avez traversé cette période de réflexion, de discernement, de travail, d'échange, jusqu'à cette décision que vous annoncez aujourd'hui, une période durant laquelle vous nous avez dit que vous avez reçu énormément de courriers vifs, passionnés. Comment vous avez vécu cette période et est-ce que aujourd'hui vous êtes un évêque en paix ?
Alors étonnamment, comment je l'ai traversé ? D'abord, c'est pas fini, hein. C'est pas fini puisque le travail continue, la recherche continue et je sais, pour avoir rencontré des victimes, ma vulnérabilité à leur souffrance et comment parfois les larmes coulent avec les leurs. Bon. Donc c'est pas fini et je m'attends à ce que cela continue et continue sans doute longtemps. Voilà, le mal est là et le bien est possible, il faut le chercher ensemble. Bon. Donc c'est pas fini. J'ai pas fini de traverser ça et je pense que désormais, je me disais ça, mais je pense que désormais cette traversée, elle va durer jusqu'à ma mort. Hein. Voilà, je suis absolument convaincu de cela.
Vous voulez dire quoi par là que cette affaire-là, elle va être ancrée dans votre cœur jusqu'à la fin de vos jours ?
J'avais lu un livre de théologie pendant mes années de formation qui disait qu'on ne pouvait plus faire de la théologie, on ne pouvait plus étudier le mystère de Dieu, parler de Dieu, après la découverte de l'Holocauste au milieu du XXe siècle, comme on l'avait fait jusque-là. Eh bien, je suis convaincu pour ma part qu'il en est de même par rapport à la découverte de la question des abus dans l'Église, commis par des clercs. On ne peut plus parler de Dieu, de sa miséricorde, de la mission de l'Église, de sacrement du salut. On ne peut plus dire et faire exactement, après la découverte de tout cela, comme on le faisait avant. C'est pas possible. Et donc, dans ma vie, j'étais peut-être pas spécialement préparé à vivre cela. Ma nomination à Lourdes me met au cœur de cette problématique, enfin de ce combat, de cette question. Et je sais que désormais, ma vie ne sera pas la même après que ce qu'elle était avant cette aventure. Bon, alors ben, très bien, ben, c'est pas la croix que j'aurais choisie, mais elle est là. Et franchement, elle n'est rien à côté de celle que des victimes portent depuis des décennies, jusqu'à 70 ans pour une que j'ai rencontrée longuement l'année dernière. Étonnamment, alors mes nuits sont courtes depuis des semaines, depuis la fin des travaux de la commission, et donc une certaine solitude pour aboutir à une décision, qui est une décision d'étape, mais qui est une décision que j'assume pleinement. Bon, ben voilà, c'est très bien. Et pourtant, étonnamment, au plus profond, je suis en paix. Pourquoi ? Parce que, comme je le disais tout à l'heure, j'ai la conviction intime, profonde, que c'est de l'ordre du combat spirituel que Dieu mène depuis la nuit des temps contre son ennemi, que ça se joue de manière particulière dans ce lieu que la Vierge habite, qui est un lieu de guérison, d'un lieu où le ciel fait du bien à la terre, d'un lieu de reconstruction, et donc ben, que l'ennemi de Dieu soit un peu plus intéressé par ce lieu que d'autres, peut-être, c'est pas étonnant en soi. Donc j'ai conscience que nous sommes ici au cœur de ce combat-là, et nous savons dans la foi que ce combat, il est déjà gagné par le Christ, et que la Vierge a déjà écrasé la tête du serpent. Et donc, cette assurance de foi profonde me laisse paradoxalement en paix par rapport à toutes les turbulences que nous traversons, je ne suis pas le seul, hein, et que l'Église traverse sur cette question. Et je suis sûr qu'on avance et qu'on a besoin les uns des autres pour avancer ensemble vers ce qui est le meilleur pour l'Église. Et casser l'Église, la diviser, ne serait certainement pas une bonne chose, parce qu'elle est le sacrement du Christ qui sauve. Et le diviseur n'attend qu'une chose, c'est précisément de la diviser et de la casser. Et donc je ne veux pas rajouter cette blessure supplémentaire à l'Église. Il faut au contraire travailler à sa communion, à son unité, autant qu'on le peut, et avancer résolument.
Et voilà pourquoi, Mgr Mika, vous avez annoncé aujourd'hui même le maintien de ces mosaïques, l'œuvre de Rupnik sur la façade de la basilique du Rosaire. Bien que votre avis personnel est qu'il vaudrait mieux les retirer, vous les maintenez tout en ajustant, en modérant le jeu de lumière qui les faisait briller chaque soir durant la procession mariale. Dorénavant, ces mosaïques seront placées dans l'ombre. Tout cela, vous l'expliquez dans un communiqué que nous pouvons trouver sur le site du sanctuaire et sur le site du diocèse de Tarbes et Lourdes. Vous voulez rajouter un dernier mot, Mgr Mika ?
Oui, c'est juste une précision. Pas modérant le jeu de lumière, en le supprimant purement et simplement.
Voilà, donc la mise dans l'ombre des mosaïques de Rupnik sur la basilique du Rosaire dès ce soir. Merci beaucoup, Mgr Mika.
Merci beaucoup, Anne-Rose.